Le journal Loïc Barrière. Une opération israélienne près de Naplouse a fait 3 morts, dont un chef de faction palestinienne et 69 blessés. L'ONU évoque un cessez-le-feu fragile dans la bande de Gaza. Les bombardements israéliens ont fait 46 morts palestiniens, dont 16 enfants et 360 blessés. L'association France-Palestine Solidarité exprime son indignation après les bombardements contre Gaza. Entretien avec Bertrand Elbron, président de l'AFPS. Ce que demandent les enseignants à juste titre, c'est une augmentation de salaire pour tous et pas des primes. Yannick Trigance, secrétaire national du PS, réagit aux annonces du gouvernement sur l'éducation. Enfin, au Mali, 17 soldats et 4 civils tués dans une attaque djihadiste. Réuni en urgence ce lundi après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur la situation à Gaza. Plusieurs membres du Conseil expriment leur inquiétude malgré la trêve entre le djihad islamique et Israël. Après 3 jours d'opérations meurtrières à Gaza, l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Thor Wensland, estime que le cessez-le-feu est fragile. Les bombardements israéliens ont fait 46 morts palestiniens, dont 16 enfants et 360 blessés. Pour sa part, la France salue le cessez-le-feu par la voix du Quai d'Orsay. Paris déplore les victimes civiles et exprime ses sincères condoléances à leurs familles. L'association France-Palestine Solidarité, elle, exprime son indignation après ces bombardements. Israël a parlé d'une attaque préventive après l'arrestation d'un responsable du djihad islamique. Entretien avec Bertrand Elbron, président de l'association France-Palestine Solidarité.
Effectivement, quand on parle de préventive, c'est donc une agression caractérisée, il n'y a pas d'autre mot. Cette agression, elle touche la population de Gaza, et j'allais dire particulièrement ignoble parce qu'on sent derrière des visées électoralistes. Israël est en campagne électorale, et en l'absence de toute sanction, un homme politique qui veut se faire des voix, ben, il va aller agresser Gaza, et tant que les puissances, ce qu'on appelle la communauté internationale, ne réagit pas, et se sentent en totale impunité. Donc pour nous, ça a aussi un sens, c'est que on a beaucoup d'amis à Gaza. Nous sommes aussi en relation avec des équipes qui travaillent avec des enfants, soit pour dans une visée éducative, soit pour soigner leurs troubles psychologiques. Et on pense particulièrement à eux. Ils sont terrifiés. Les enfants de Gaza souffrent presque tous de stress post-traumatique à des degrés divers. Et les psychologues déploient des trésors d'ingéniosité pour arriver à leur faire surmonter cela. Et puis chaque fois, c'est à recommencer parce que c'est toute la population de Gaza qui vit évidemment dans la terreur. Personne ne sait si la prochaine bombe ne sera pas pour sa maison ou son immeuble. Donc c'est une situation qui est terrible.
Les points de passage ont rouvert, mais le blocus de Gaza continue. Et c'est le cas depuis 2007.
Et donc ça fait 15 ans de blocus. C'est quelque chose de complètement inédit. Quand on maintient une population sous blocus pendant une telle durée, il y a une volonté alors de punition collective qui est complètement interdite par le droit international, mais pire que ça, finalement d'anéantir la société palestinienne, ses structures, son économie. Les Palestiniens résistent, notamment ils font d'énormes efforts pour l'éducation de leurs enfants. Mais il ne faut pas sous-estimer leur souffrance. Ces 15 ans de blocus émaillés d'attaques complètement inhumaines, comme celle de l'an dernier, où les bombardements étaient incessants, c'est quelque chose de terrible pour toute la population de Gaza. Et vraiment, disons-le nous bien, ce sont des personnes comme vous et moi. Et ces personnes-là, elles souffrent pour elles-mêmes, elles souffrent pour leurs enfants, elles souffrent pour leurs aînés. C'est une situation qui est complètement inhumaine et qui devrait cesser immédiatement. C'est pas possible, 15 ans de blocus, nous menons campagne aussi pour lever immédiat du blocus de Gaza, sans condition. Nous en avons assez qu'on nous oppose la sécurité d'Israël. La sécurité d'Israël, c'est quand Israël apprendra à tenir compte des droits des Palestiniens et vivre en paix avec eux. C'est pas par cette destruction de la société palestinienne et ces attaques incessantes.
Qu'attendez-vous des autorités françaises puisque votre association est implantée en France?
Nous attendons, j'allais dire, le contraire de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Parce que nous avons été indignés, le mot est un peu faible, par le communiqué du Quai d'Orsay qui est paru samedi, où le premier mot, la première phrase, c'est le soutien inconditionnel à la sécurité d'Israël. Il y a quelque chose d'indécent quand Israël attaque une population, quand une population souffre et est sous les bombes, de dire « Ah, notre première préoccupation, c'est le soutien inconditionnel à la sécurité d'Israël. Inconditionnel, ça veut dire permis de tuer. » Et là, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est d'ailleurs pas dans la logique diplomatique française, hein, sauf l'an dernier ou encore en mai 2021, le président Macron a parlé du droit d'Israël à se défendre quand les bombes pleuvaient sur Gaza. Ça, il y a quelque chose qui, pour nous, n'est pas possible. Nous l'avons communiqué officiellement. Nous avons écrit à la ministre des Affaires étrangères. C'est quelque chose que nous considérons comme insupportable. Et donc, ce que nous attendons de la politique française, de la ministre des Affaires étrangères et du président de la République, c'est d'abord une condamnation des bombardements. Bombarder des populations civiles, enfin n'importe où dans le monde, c'est condamné. Enfin, c'est juste incroyable qu'on ne condamne pas, qu'on juste, on déplore les pertes palestiniennes. Mais attendez, elles viennent pas d'une catastrophe naturelle, hein, ces morts palestiniennes. Elles viennent des bombardements israéliens sur Gaza. Donc, ils doivent être condamnés. Et bien sûr qu'il faut des sanctions. La France pourrait commencer, elle en a le pouvoir, par suspendre ou rompre ses relations militaires avec Israël. Et au-delà, c'est bien sûr des sanctions qu'il faut mettre en place. Et ça demande un peu de courage, hein, de la part du Conseil européen des affaires étrangères, où ce sont nos ministres, hein, qui siègent. Donc c'est à eux de dire que oui, ça ne peut pas continuer et que maintenant, si Israël viole le droit international, il faut des sanctions.
Récemment, des députés communistes et de la France insoumise ont été très critiqués parce qu'ils avaient évoqué dans une résolution l'apartheid pratiqué par Israël. Qu'avez-vous pensé de cette polémique?
Pour la plupart de ces réactions, ce sont des réactions de très mauvaise foi. Donc je vais dire quelques mots parce qu'il y a effectivement des personnes sincères qui disent « Ah oui, mais quand même, la situation est terrible, il faudrait pas parler d'apartheid, la référence à l'Afrique du Sud, c'est pas exactement ça. » Mais on n'est pas sur la référence à l'Afrique du Sud. On est sur la définition internationale par l'ONU et par la Cour pénale internationale d'un crime contre l'humanité. Et ce crime contre l'humanité, il est établi par les grandes ONG palestiniennes, israéliennes comme B'Tselem, internationales comme Human Rights Watch et l'Amnesty International. Donc il faut ouvrir les yeux. Il faut que toutes les personnes de bonne foi ouvrent les yeux et voient qu'effectivement, la définition internationale de l'apartheid, elle s'applique au régime qu'Israël fait subir au peuple palestinien. Et à partir de là, mais effectivement, il faut agir pour que ces violations du droit s'arrêtent et que les choses soient réparées pour les Palestiniens. C'est tout simplement cela. Après, la plupart des réactions sont des réactions que l'on peut dire coordonnées, téléguidées par un réseau de soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Il y a des députés qui ont réagi, que ça ne nous a pas trop étonnés. En tout cas, c'est une mauvaise polémique. Il faut arriver à parler de l'apartheid d'une manière moins dépassionnée, se remettre sur la question des faits, de l'évidence des faits, de ce que ça veut dire en droit international. À partir de là, mais effectivement, de discuter de ce qu'on peut faire pour que ces violations du droit s'arrêtent. En droit international, l'apartheid, c'est un crime contre l'humanité. Il est établi par les plus grandes ONG. On ne peut pas prendre ça à la légère.
Bertrand Helbron, président de l'association France-Palestine Solidarité. Et puis, au Liban, un responsable du Fatah a été tué par balle dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ain Helwe. L'homme avait le rang d'officier dans le mouvement du président Mahmoud Abbas. Il était en charge des liaisons avec les forces de sécurité libanaises. Il a été tué par balle par un inconnu alors qu'il priait dans la maison d'un ami dans ce camp palestinien. En France, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a annoncé une hausse historique des crédits pour l'éducation nationale. Il s'agit pour le gouvernement d'augmenter les salaires des enseignants qui entrent dans la carrière. Réaction de Yannick Trigance, secrétaire national du PS en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Gabriel Attal, effectivement, parle d'une hausse, il parle même d'ailleurs d'une hausse historique. Je pense qu'il faut ramener les choses à leur juste niveau et à leur juste proportion. On ne peut que se satisfaire, effectivement, lorsque l'on parle de hausse. Mais enfin, cette augmentation a des précédents historiques meilleurs que ce qui est annoncé aujourd'hui. Je rappellerai simplement que sous Lionel Jospin, de 1988 à 1992, il y avait eu une hausse nettement supérieure à celle que propose aujourd'hui Gabriel Attal et son gouvernement, puisque il y avait eu une augmentation budgétaire en proportion par rapport au PIB qui était passée de 6,6% à 7,6% du PIB. Ça représentait quand même 1%, ce qui est absolument énorme, contrairement à ce que propose aujourd'hui Gabriel Attal, qui ne va générer une augmentation que de 0,3%. Deuxième élément, dans l'histoire aussi assez récente, en 2016, Najat Vallaud-Belkacem a augmenté de près de 3 milliards le budget de l'enseignement scolaire en 2017, avec une inflation qui était à 1%, alors qu'aujourd'hui l'inflation est à 6%, et que la hausse qui est proposée aujourd'hui va être évidemment avalée assez fortement par une inflation qui est importante. Alors, il y a une hausse, et c'est une bonne chose, mais c'est une hausse qui, pour les enseignants, va être très largement insuffisante, et qui surtout pose un certain nombre de questions.
Gabriel Attal affirme que cette hausse dans le budget de l'éducation nationale va permettre de financer les augmentations de salaire des jeunes enseignants.
Effectivement, dans les annonces qui sont faites, on nous parle des débutants, dont acte. D'abord, il faut que ça soit bien des augmentations de salaire et non pas des primes, parce que jusqu'à présent, le ministre Blanquer a procédé un certain nombre de primes. Ce que demandent aujourd'hui les enseignants et leurs organisations syndicales à juste titre, c'est une augmentation de salaire. Mais pas que pour les débutants, parce que les débutants, très bien, si aujourd'hui un débutant commence, comme c'est annoncé, à 2000 euros, quid d'un enseignant qui enseigne depuis maintenant plusieurs années, de 5 à 10 ans, et qui, lui, est déjà à 2000 euros. On ne peut pas avoir des enseignants qui débutent avec le même salaire que des enseignants qui ont une ancienneté importante. Et donc, premier élément, il ne faut pas que ce soit des primes, il faut que ce soit des augmentations de salaire. Deuxième élément, il faut discuter de l'augmentation des salaires des autres enseignants. C'est quelque chose qui est absolument important. Troisième élément, moi je suis quand même un petit peu inquiet de la manière dont les choses sont présentées, parce que Gabriel Attal, comme d'ailleurs Emmanuel Macron, insinuent dans leur proposition de soumettre ces augmentations à une accentuation, à une augmentation des missions des enseignants. Or, aujourd'hui, la revalorisation salariale des enseignants, c'est un dû. Ça n'est pas quelque chose qui doit être fait contre, par exemple, accepter de remplacer d'autres enseignants absents ou travailler sur le temps périscolaire. Non, la réalité, c'est que la fonction enseignante a besoin d'être revalorisée et que cette revalorisation, ça n'est pas sous condition. C'est une revalorisation qui est nécessaire par rapport à la dégradation des conditions aujourd'hui de vie des enseignants par rapport à leur salaire.
Est-ce qu'une telle annonce sur la revalorisation des salaires des enseignants débutants peut rendre le métier plus attractif, puisqu'on sait qu'on manque d'enseignants ?
C'est un des éléments, mais malheureusement, ça n'est pas le seul. Aujourd'hui, on le voit bien, la question salariale, elle est présente, mais ce que demandent aussi les enseignants, c'est des conditions de travail qui soient des conditions de travail satisfaisantes. On ne peut pas avoir dans certains établissements, dans le second degré, des classes à 30, 35 élèves pour enseigner. Ça n'est pas possible. Ça veut donc dire qu'il faut davantage d'enseignants dans nos classes. Il faut donc rendre le métier attractif. Ça passe par la revalorisation salariale, ça passe par les conditions de travail, ça passe aussi par la formation initiale, bien évidemment. Le ministre Ndiaye, le nouveau ministre, a organisé des job dating pour recruter pendant l'été quelques 2000 enseignants qui, pour l'instant, manquent encore. Et ce sont des gens qui vont se retrouver le jour de la rentrée dans des classes sans aucune formation. C'est quand même assez problématique. Et deuxième élément, c'est aussi la formation continue, puisque les enseignants, tout au long de leur carrière, ont besoin d'être formés. Donc salaire, oui, mais aussi conditions de travail, formation initiale et continue. Je parlerai également de la question de la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, un enseignant, il faut quand même savoir, et ça, l'opinion publique ne le sait pas, mais par exemple, au cours de sa carrière, vous avez des enseignants qui ne rencontrent et qui n'ont aucune visite médicale dans le cadre de la médecine du travail. Donc, là aussi, dans l'accompagnement, dans le suivi de des enseignants, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui, notamment au travers de la crise sanitaire, mais bien au-delà, souffrent dans leur travail. Vous le savez, il y a un certain nombre de démissions, il y a des demandes de mobilité, des demandes de disponibilité, parce que aujourd'hui le corps enseignant est en souffrance et qu'il faut aussi s'attaquer à cette question-là.
Yannick Trigance, secrétaire national du Parti Socialiste en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Au Mali, bilan révisé à la hausse après une attaque contre l'armée. Dimanche, ce sont au moins 17 soldats et 4 civils qui ont été tués. 9 autres militaires sont portés disparus. L'attaque attribuée à des djihadistes s'est déroulée dans la ville de Tessit, à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un nouveau féminicide en France. Une femme a été tuée samedi par son concubin à Saint-Brévin-les-Pins, à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Nantes. Elle était âgée d'une 50aine d'années. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire par concubin. Le décès du célèbre créateur de mode Issey Miyake, le couturier japonais, était âgé de 84 ans. Enfin, la mort de l'actrice Olivia Newton-John, star de la comédie musicale Grease. Âgée de 73 ans, la chanteuse et actrice luttait contre un cancer du sein depuis 30 ans. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.